Genèveactive.ch.
L'humour est l'un des moteurs de la philosophie. Il me semble que, depuis les Grecs anciens, il y a une place forte qui est donnée à l'étonnement. S'étonner, c'est commencer à philosopher, disait en gros Aristote, et Platon avant lui d'ailleurs dans le Théétète, mais ça peu importe. Je trouve que rien n'est plus fort pour s'étonner que de faire apparaître l'envers inaperçu des choses. Et c'est le pouvoir de l'humour que de faire apparaître cet envers inaperçu, que ce soit dans le langage, par le jeu de mots, le mot d'esprit, le lapsus, ça Lacan l'avait bien vu, faire voir comment le langage parle à notre insu, et aussi le comique de situation, faire voir comment, quand on croit maîtriser ce que l'on dit, ce que l'on fait, quand on se croit arrimé à sa fonction sociale, comment tout d'un coup des accidents apparaissent qui révèlent l'autre côté des choses. Et ça, c'est là qu'est le pouvoir d'étonnement. L'étonnement, c'est dire, mais pourquoi vous croyez à ce que vous faites? Pourquoi est-ce que vous êtes sûr du sens de ce que vous dites? Et l'humour ne fait que cela, questionner, enfin, un certain type d'humour, et celui que j'essaie de valoriser, et voilà, s'étonne de cette manière-là, interroge de cette manière-là, et la scène est le lieu pour s'étonner ainsi.
L'étonnement, la sidération, Gilles Deleuze, dans son abécédaire à lui, amenait justement à faire des pauses sur image, ce que vous faites également donc dans le spectacle avec ces trois protagonistes, et à plusieurs moments donnés, il y a un gel de l'image. Le raisonnement est comme interrompu pour mieux se prolonger ailleurs. Pourquoi c'est ce choix ?
Effectivement, moi j'aime l'interruption, c'est-à-dire le fait de pas trop en donner. On est au théâtre, là encore, on n'est pas dans un essai philosophique. L'imaginaire est décisif, le pouvoir de suggestion, et puis ça fait partie de l'humour, c'est-à-dire s'amuser à suggérer quelque chose et ensuite laisser faire le spectateur. Donc moi j'aime bien ça, j'aime bien que ça aille dans tous les sens, à condition qu'on lâche pas le spectateur. C'est-à-dire le risque, c'est quand on choisit d'aller un peu dans tous les sens et d'aller dans le sens de la folie ou de la pensée joyeuse, il faut emmener le spectateur dans le voyage. C'est un peu le pari de ce type de spectacle. Tout le monde n'y arrive pas à suivre et à rentrer dans le voyage, mais c'est ça. Moi je veux pas aller au bout de ce que je dis, être démonstratif, ça je le fais dans des essais de philo, mais là c'est pas la peine. Je préfère dire, allez, je vous emmène quelque part, et puis ensuite, pouf, allez, suivez-moi, on va ailleurs, et puis ça va marcher, on va y arriver.
La philosophie, sans doute depuis les origines, se décline sous une forme de dialogue, dialogique, dialogue d'ailleurs qui peut être à deux, à trois, ou même monologue dialogique, d'une certaine manière, sous la forme de questions, et en mouvement aussi également. Donc les premiers philosophes, parmi les premiers, étaient appelés péripatéticiens. Donc vous renouvelez cette forme canonique en choisissant trois protagonistes.
C'était pas tant de renouveler le dialogue socratique que de se dire, on est dans une comédie philosophique, on est dans une comédie. La comédie a besoin de fonctionner avec des personnages typiques, qui sont eux-mêmes créateurs de situations. Comme chez Aristophane, il faut qu'on ait des personnages bien marqués, qui sont au départ à la limite de la caricature, et qui ensuite se révèlent autres parce que la relation se noue entre eux. Donc au départ, on a des personnages typiques et caricaturaux, et qui, par la rencontre, vont se mettre à vivre autrement. Et donc, j'avais besoin de trois personnages qui puissent favoriser ce voyage dont je parlais. La chouette, c'est un peu le miroir du public. C'est la personne qui représente l'opinion, qu'on arrache à l'opinion au départ. On est dans la structure du mythe de la caverne. Donc, le guide va la chercher dans le public. Elle est arrachée au public pour essayer d'aller jusque dans les bras du philosophe, essayer d'y voir plus clair, par l'intermédiaire d'un guide. Alors, ce personnage... Moi, ce qui m'a intéressé dans ce personnage, il pourrait y avoir, et on croit que c'est ça dans la caverne, il pourrait n'y avoir qu'un philosophe et une chouette. Pour moi, en philo, il y a un guide, c'est-à-dire que la philo ne peut pas éviter la dimension de la séduction. Il faut draguer à un moment. Et c'est ce moment qui est très ambigu, c'est-à-dire le moment où il faut aller du côté de l'opinion pour l'arracher à elle-même. Donc il faut la draguer. Et c'est ça que j'ai voulu représenter dans ce personnage du guide, qui arrive un peu comme un dragueur de supermarché, un peu caricatural. Mais, voilà, il va effectivement draguer l'opinion pour qu'elle puisse aller jusque dans les bras du philosophe.
Alors, une pensée séduction, mais qui n'oublie pas, comme vous le présentez, cette sorte de voyage au pays des idées, des notions philosophiques, comme Alice au pays des merveilles. Alice au pays des merveilles, tout de même, qui, et des gens comme Aragon l'ont beaucoup rappelé, a non seulement affaire à une pensée pré-surréaliste, mais beaucoup avec la mort, beaucoup avec des réflexions sur le temps qui passe, et beaucoup avec la psychanalyse également, pour et à la philosophie, naturellement, puisqu'elle embrasse des notions clés, et qu'elle redistribue les cartes. Donc, il y a le temps, Dieu, la souffrance, la mort. Et quel a été un petit peu votre désir initial, puisque vous êtes parti d'un écrit, c'est un peu comme la bibliothèque d'Aristote, hein, vous êtes parti de A, vous avez fini par Z, nombreux philosophes ont agi de la même manière.
Mon souci, c'était que ça puisse faire une pièce de théâtre. J'avais un abécédaire de notions. Bon, ça, j'avais choisi les notions. Bon, ça, c'était au fur et à mesure que je l'ai écrite, hein, un peu comme dans tout abécédaire, on fait des choix de départ. Mais cet abécédaire, il est fait pour être lu. Hein, la philosophie enseignée à ma chouette. Et donc, je me disais que ça plaisait beaucoup à la lecture. Il y avait on sentait une puissance théâtrale. Bon, puis j'écris avec mon expérience du théâtre, même en philo. Donc, je me disais, comment faire une pièce de théâtre avec ça? Donc, mon principal souci, ça a été quand même de construction. C'est-à-dire, comment faire pour que, et on revient à ce voyage, ça fasse un voyage initiatique réel, cohérent. Quelles notions retenir pour qu'il y ait une progressivité, un fil conducteur, et puis en même temps, des registres et des tableaux suffisamment différents. C'est l'équilibre entre, voilà, des choses différentes pour que ça ne devienne pas monotone et une progressivité qui fait qu'on a l'impression effectivement d'avancer et d'aller quelque part. Même si à l'arrivée, évidemment, les personnages disent, voilà, où est-ce qu'on est arrivé? Nulle part.
Mais ce nulle part, c'est aussi le lieu de l'utopie, le lieu de l'Uchronie, et celle que vous déclinez, c'est le pays des Schtroumpfs, sous la forme d'un diaporama avec en voix off l'accent sur le versant totalitaire des Schtroumpfs.
Bah c'est vraiment ce qu'est l'humour. C'est-à-dire que on touche à l'innocence pure, quelque chose qui a l'air de, bah, c'est pour les enfants, c'est les Schtroumpfs, c'est mignon comme tout, et c'est vrai que c'est mignon les Schtroumpfs. Et tout d'un coup, on rit, mais il y a quelque chose qui se profile derrière quand on réalise que la société Schtroumpf est peut-être tout simplement le modèle de la société totalitaire par excellence. C'est ça la force de l'humour, c'est de nous faire voir cette terrible ambiguïté des choses et de renverser cette image de l'innocence et du bonheur pour en faire apparaître cet envers, hein, qui est, c'est ça aussi le totalitarisme. Et en fait, évidemment, Peyot n'est pas, et Pierre Culliford n'est pas un auteur ambigu comme a pu l'être Hergé. Bon, c'est, à mon avis, beaucoup moins ambigu. Il y a pas, mais il y a un côté schtroumpfique, hein, dans les sociétés totalitaires, en tout cas. Hein, cette image du bonheur, tout ce que je dis sur le fait que c'est imperméable au changement, inaccessible à un certain type de questionnement, et puis sur la réduction, mais ça c'est aussi un truc enfantin, mais sur la réduction des êtres à leurs fonctions. C'est quand même aussi un modèle totalitaire. Et ce qui n'a laissé de m'étonner, c'est quand même l'unicité de la femme chez les Schtroumpfs, qui est une seule femme, comme très révélateur d'un certain rapport à la femme au XXe siècle, qui devient effectivement, ça j'en suis convaincu, c'est l'inconscient des Schtroumpfs. Mais cet inconscient, c'est de dire finalement, femme, c'est une fonction sociale.
Mmh. Ici, vous présentez un personnage en solo, vous-même, qui est pris d'une espèce de doute hyperbolique. Qu'est-ce qu'il en était justement de ce penseur en scène, sur scène, parce que l'espace du livre n'est pas le même, comme vous l'avez dit, que l'espace de la scène.
Ce qui est bien, c'est que c'est un corps pensant quand on est sur scène, c'est vraiment, et plus, on peut vraiment dire que là, ça pense en lui. Il n'est pas cartésien, c'est pas je pense, c'est pas cogito. S'il le dit à un moment, il le découvre, et il est très très content. Il dit « J'existe, je suis ego sub », et alors il en éprouve une fierté énorme, donc ça devient assez délirant. Son corps devient un lieu, et là aussi ça suscite l'étonnement, c'est-à-dire que effectivement il est, comme il le dit au départ, atteint de doute hyperbolique. C'est pas « je doute » comme chez Descartes, il est atteint, c'est une maladie du questionnement, et le questionnement précède son existence, ça le saisit, il est saisi par le questionnement et il est philosophe malgré lui, comme Monsieur Jourdain faisait de la prose malgré lui. Et donc c'est ça qui est vachement intéressant. Les philosophes disent toujours, depuis l'ironie socratique, on est des naïfs. Mais c'est une naïveté construite, seconde. Là, moi j'ai voulu vraiment essayer de mettre la philosophie à l'épreuve d'une naïveté première. C'est un enfant qui pense sur scène, quelqu'un qui n'est pas fait pour être philosophe, et il lit les philosophes à sa manière. Il va les ouvrir, il va relire, et ça devient complètement fou. Mais du coup, ça fait apparaître quelque chose d'autre, c'est-à-dire quelque chose comme aussi la naïveté première de la philosophie. J'adore le potentiel de folie que recèle le théâtre. Évidemment, quand on enferme les fous, on neutralise aussi la folie possible du théâtre. Cette folie, c'est justement de faire disparaître les frontières entre l'espace public de la rue et l'exposition des corps sur une scène, de rendre ces frontières frontières floues. C'est pour ça que j'aime interpeller directement le public aussi. Il y a une histoire du théâtre classique dont parle très bien aussi un contemporain de Foucault qui est encore en vie, lui, qui est Richard Sennett. À la fin de l'âge classique, il y a effectivement une transformation du théâtre qui devient un théâtre bourgeois coupé de la rue et dans lequel on crée, ce qui est le point de départ des médias modernes, la notion de vedette. Hein, c'est né au théâtre, les stars. C'est-à-dire on vient voir des stars, on vient pas voir un miroir de notre société comme c'était le cas chez les Grecs dans un espace qui fait partie complètement de la cité. On vient voir des stars pour compenser la médiocrité de notre existence bourgeoise. Voilà, il se passe plus rien, ça n'a plus d'écho public, cette histoire-là. Et donc le théâtre peut aussi tomber là-dedans, évidemment. Il faut en retrouver la folie, ça c'est évident. Retrouver la folie de la philosophie et la folie du théâtre et essayer de... pas forcément, encore une fois, par la provocation, mais par la création, d'abattre un peu ces murs. Il y a la seule phrase de la pièce qu'on peut autoriser, on pourra la mettre aussi dans les dictionnaires des citations, je l'aime bien. On n'a pas le temps de regarder le temps qui passe, que tout le temps qui reste est déjà passé. Et je ne fais que redire ce que beaucoup d'autres ont dit, et finalement, je crois qu'on tourne toujours qu'autour de cette seule question-là, de cette seule phrase. La philosophie tourne autour de ça, la question d'apprendre à vivre, et même quand elle est politique. Il n'y a pas une philosophie qui serait pas politique, une autre qui le serait. Moi, j'essaie d'aborder toujours les grandes questions métaphysiques, et pour moi, elles flirtent toujours avec la politique. Bon, et c'est pas séparable. La politique, c'est une affaire de quête du bonheur, c'est une affaire de corps, c'est une affaire de comment est-ce qu'on fait pour, à plusieurs, réussir à jouir de la vie dans un cadre social, etc. Et comment est-ce qu'on fait pour redevenir les maîtres du temps, mais au moins retrouver le loisir. Il faudrait surtout retrouver le plaisir de philosopher tout au long de l'école. Je crois qu'il y a une manière de penser l'éducation qui est philosophique. Je crois pas qu'il faut faire un sort particulier à la discipline philosophie parce que du coup elle a tendance à se couper de manière un peu corporatiste des autres disciplines, là où il devrait être un liant profondément éducatif qui touche à ce dont je parlais au départ, qui touche à l'étonnement, au pouvoir d'étonnement du savoir et de la pensée, qui devrait être présent tout au long de l'éducation. Et c'est ça qui est... À la limite, la philosophie ne mérite pas de vivre plus en terminale si on n'est pas capable de retrouver ce pouvoir d'étonnement qui doit habiter le geste éducatif depuis le départ. Donc, avant de m'interroger là-dessus, je me dirais qu'est-ce qu'on veut faire ? Quelles sont les finalités de l'éducation, pour le dire très pompeusement ? Mais qu'est-ce qu'on veut faire avec ça ? Comment on conçoit ce geste-là, le rapport du maître et de l'élève ? Et ça a été le questionnement des grands philosophes qui ont parlé d'éducation. Ils ne sont jamais trop souciés de savoir si la philosophie, alors qu'ils étaient philosophes, allait exister ou pas au lycée. Ils se demandaient qu'est-ce qu'on fait quand on éduque ? Qu'est-ce qui se passe dans l'enseignement ? Comment est-ce qu'on ouvre un esprit sans s'imposer à lui ? Comment est-ce qu'on entre dans la dimension du partage ? Évidemment, la question d'Alain, la question de Jacques Rancière, la question de Durkheim aussi, même si lui... accorde une place prépondérante à la socialisation. Et n'empêche, voilà, eux pensent la philosophie dans l'éducation.
Genève Active.ch